Bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute de RFI, 9h en temps universel. Il est 11h ici à Paris, bonjour.
Charlotte Hydrac.
À la une, l'engrenage entre Israël et l'Iran. L'État hébreu bombarde les défenses aériennes et des lanceurs de missiles iraniens. Au moins 3 sites nucléaires ont été touchés. Le bilan est de 78 morts au moins. Téhéran a lancé sa riposte hier soir avec des tirs de missiles balistiques contre l'État hébreu. Au moins 3 personnes ont été tuées. Assez de l'escalade. Il est temps que ça cesse, déplore le patron de l'ONU, Antonio Guterres. À suivre aussi dans ce journal, le Sénégal retiré de la liste des pays à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme par la Commission européenne. C'est une bonne nouvelle pour Dakar. Et puis le top départ pour la Coupe du Monde des clubs de football. Nouveau format, nouvelles affiches et nombreuses critiques. Oui, frappes aériennes et tirs de missiles. Donc Israël et l'Iran continuent de s'attaquer mutuellement ce samedi après l'offensive lancée hier par l'État hébreu contre des installations militaires et nucléaires iraniennes. Téhéran a riposté dès hier soir. Des sirènes d'alerte ont retenti en Israël. 3 salves de missiles balistiques iraniens, environ 150 selon l'ambassadeur israélien aux États-Unis, se sont abattus principalement sur Tel Aviv et la côte israélienne. Bilan 3 morts et des dizaines de blessés. En Iran, l'espace aérien a été fermé jusqu'à nouvel ordre. Selon des médias d'État, 2 généraux ont été tués dans une frappe israélienne. Les attaques ont fait 78 morts selon le représentant iranien à l'ONU. Le président américain, lui, a appelé l'Iran hier à conclure un accord sur le nucléaire et mise en garde sur de prochaines attaques encore plus brutales, dit-il. Les États-Unis, qui avaient entamé un cycle de négociations avec Téhéran sur ce programme nucléaire, qui avait poussé aussi Israël à ne pas attaquer l'Iran. Alors quel rôle, quelle position américaine dans cette escalade? Washington prend ses distances avec son allié israélien, selon Eli Tenenbaum, directeur de recherche à l'IFRI.
La présence américaine est très importante, hein. On parle de 30 000 hommes entre les grandes bases au Qatar, au Koweït, une présence aux Émirats Arabes Unis, en Irak, en Arabie Saoudite, en Jordanie. Tous les pays de la région ont à un degré ou à un autre une présence américaine qui d'ailleurs est régulièrement attaquée par les alliés, partenaires, proxys de l'Iran dans la région. C'est d'ailleurs dans ce sens que Marco Rubio, secrétaire d'État américain et conseiller à la sécurité nationale Donald Trump, a publié un texte menaçant l'Iran s'il venait à prendre pour cible, comme représailles, les forces américaines présentes dans la région. Et en même temps, pas de message de soutien effectif des États-Unis à l'opération. On sent que du côté américain, il y a une volonté de bien faire comprendre que c'est une décision israélienne unilatérale.
Analyse d'Eli Tenenbaum, directeur de recherche à l'IFRI, propos recueillis par Franck Alexandre. Un nouveau round de négociations entre États-Unis et Iran est prévu en principe demain dimanche à Oman. Il n'y a pas d'annulation officielle. Une participation de Téhéran reste incertaine selon le porte-parole de la diplomatie iranienne. Une escalade qui a aussi des répercussions économiques. L'or, valeur refuge par excellence, n'est pas loin de battre des records. Les cours du pétrole ont flambé et les marchés financiers sont fébriles. Avec une crainte, Nicolas Feldman, que la riposte iranienne affecte le trafic maritime sur l'une des routes les plus stratégiques au monde, le détroit d'Ormuz.
C'est l'une des menaces régulièrement brandies par l'Iran, bloquer le détroit d'Ormuz qui relie le golfe Persique à l'océan Indien. C'est par ce passage maritime que transite plus de 20% du pétrole mondial. C'est aussi par là que passe près d'un quart du gaz naturel liquéfié consommé sur la planète. En d'autres mots, fermer le détroit reviendrait à couper l'approvisionnement d'une partie du gaz et du pétrole dans le monde avec pour conséquence une hausse des prix. Un scénario qui n'est pour le moment qu'une hypothèse, d'abord parce que l'Iran s'exposerait à une riposte internationale, États-Unis en tête, ensuite et surtout car Téhéran risquerait de pénaliser ses propres exportations d'hydrocarbures vitales pour son économie déjà mise à mal par les sanctions. L'Iran pourrait en revanche opter pour une réponse plus mesurée en ciblant des navires à l'image des attaques menées par leurs alliés houthis en mer Rouge. Hier, déjà des compagnies maritimes ont appelé leurs navires à faire preuve de prudence dans la zone.
Et j'ajoute cette dernière réaction du pape. Léon XIV appelle Israël et l'Iran à la responsabilité et à la raison. La situation, les dernières évolutions et déclarations, c'est à suivre en direct sur RFI.fr. Aux États-Unis, 7000 soldats, des chars d'assaut, des avions de combat au programme du grand défilé militaire prévu là en fin de journée à Washington, la capitale qui a été barricadée. Ce n'est pas du tout une tradition américaine. C'est le souhait de Donald Trump. Le président veut fêter en grande pompe les 250 ans de l'armée et cela coïncide avec le jour de son 79e anniversaire. Une initiative qui divise. Des manifestations d'opposants sont prévues ce samedi dans tout le pays. Mouvement de contestation pour critiquer les dérives autoritaires du président américain. Ce mouvement est baptisé No King's Day, le jour sans roi. Une bonne nouvelle pour le Sénégal, officiellement retiré de la liste noire de la Commission européenne des pays à haut risque en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. C'était une recommandation du GAFI, le groupe d'action financière, qui a fait de même en octobre dernier. Et pour Dakar, Léalisa Vesterov, c'est une avancée cruciale dans sa quête de crédibilité financière.
Placée sous surveillance renforcée depuis 2021 par le GAFI, la Vigie internationale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le Sénégal a dû renforcer sa réglementation ces trois dernières années. 49 mesures avaient été identifiées par le GAFI, parmi lesquelles réformer le code pénal, mais aussi créer un certain nombre de structures, comme l'Office national de recouvrement des avoirs criminels, mis en service en 2022. Morne Diaye, qui la dirige, confirme un gros travail législatif mené par le Sénégal.
Sur le plan législatif, le code pénal et le code de procédure pénale ont été modifiés, notamment pour ce qui est des infractions de financement terrorisme, parce que lorsque le Sénégal a été évalué, il y avait des lacunes par rapport à l'incrimination de financement du terrorisme individuel, par exemple. Et donc, cette mesure a été corrigée à travers une réforme de 2021.
Autre mesure, l'adoption en février dernier d'une loi qui a permis de mieux définir ce qu'est le financement d'activités terroristes, tout comme la création d'un parquet financier. Sortir de cette liste noire est une véritable bouffée d'oxygène pour les institutions financières sénégalaises, qui devraient simplifier la levée de fonds pour le pays, comme les transactions bancaires, alors que le Sénégal fait face à une dette abyssale de plus de 100% de son PIB. Le Sénégal qui sera réévalué par le GAFI en février prochain. Léalisa Vesterov, Dakar, RFI.
En France, le Parti socialiste en congrès, ça se passe à Nancy dans l'est du pays. Après la réélection sur le fil de son secrétaire général Olivier Faure, le parti à la rose doit se mettre en ordre de bataille avec en ligne de mire les municipales l'an prochain et puis la présidentielle de 2027. Le football, le top départ pour la Coupe du Monde des clubs, c'est un nouveau format de cette compétition rêvée depuis 2016 par Gianni Infantino, le président de la FIFA, la Fédération internationale de foot. 32 clubs s'affrontent avec des affiches jamais vues, comme le match d'ouverture qui opposera l'Inter Miami de Lionel Messi au club égyptien d'Al Ahly. Mais ce mondial des clubs peine encore à séduire Solène Ravenel.
Un big bang dans l'histoire du football, voilà comment le président de la FIFA, Gianni Infantino, définit ce mondial des clubs. Les 32 équipes qualifiées pour disputer cette compétition se retrouvent aux États-Unis. Au total, 12 formations européennes, 6 sud-américaines, 4 asiatiques, 5 d'Amérique du Nord et Centrale et 1 d'Océanie, réparties en 8 groupes de 4. Et pour Gianni Infantino, c'est la promesse de rencontres au sommet. Les affiches sont bien inédites. Par exemple, les Égyptiens d'Al Ahly, en plus de rencontrer l'Inter Miami, joueront contre Palmeiras et le FC Porto. De leur côté, les Marocains du Wydad affronteront Manchester City ou la Juventus. Moins original par contre, le PSG qui débutera face à l'Atlético Madrid. Cette compétition est aussi une manne financière importante pour les clubs participants. Le vainqueur repartira, lui, avec presque 35 millions d'euros. Mais elle est aussi très critiquée, d'abord parce qu'elle arrive à la fin d'une saison déjà très longue pour les joueurs. Ensuite, parce qu'elle peine à trouver son public. À quelques heures du coup d'envoi du premier match, de nombreux billets sont encore en vente, malgré les importantes baisses des prix ces derniers jours. Et les questions sécuritaires se sont également invitées avec la multiplication des manifestations contre la politique migratoire de Donald Trump.
Miami, à l'Arly, coup d'envoi du match ce soir à partir de minuit, temps universel. Et puis cela fait la une des tabloïds au Royaume-Uni. David Beckham a été anobli. On peut donc désormais l'appeler Sir David. L'ancien footballeur fait chevalier par le roi Charles III, distingué pour services rendus au sport et à des organisations caritatives. David Beckham, qui a grandi dans un milieu modeste, dit qu'il n'aurait jamais pu imaginer recevoir un tel honneur. Presque 11h10 à Paris, tout de suite, grand reportage sur RFI et puis les derniers développements dans l'escalade entre l'Iran et Israël, donc à suivre sur RFI.fr. À tout à l'heure.